Rebord Against the Matin.
7h38, vous avez des choses à nous dire, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021, merci d'être là actuellement sur Québec. C'est confortable, on parle d'un 18 degrés aujourd'hui, maximum de 25 annoncés. Possibilité de température ressentie de 33, ça sera pas facile les amis, si vous êtes à l'extérieur, on vous souhaite une belle journée et on vous dit ne pas lâcher, minimum de 18 pour ce qui est de ce soir et cette nuit. Partiellement nuageux, donc ce sera parfait pour le Festival d'été de Québec. Pas d'orage de prévu pour ce qui est de ce soir. En fin de semaine, c'est la bonne nouvelle, plein soleil pour ce qui est de samedi. Et dimanche, ça, ce sera plein soleil. Peut-être en après-midi, demain, des probabilités d'orage, mais après ça, ce sera un ciel dégagé. Maximum de 28 pour samedi et dimanche, maximum de 29 degrés. Hier, on recevait un concessionnaire de véhicules usagés concernant cette nouvelle loi qu'on veut mettre en place au Québec. En fait, la Coalition Avenir Québec qui va mettre cette loi-là en place, c'est-à-dire à partir de 2035, ce sera interdit de vendre un véhicule à essence. Et on a eu l'avis d'un concessionnaire d'auto-usagers. Maintenant, on va aller voir l'avis d'un propriétaire de véhicules neufs. C'est Benoît Tige qui est propriétaire, un copropriétaire en fait du groupe Tige. Bonjour M. Benoît, comment allez-vous?
Bon matin.
Êtes-vous toujours le meilleur power forward de l'histoire au décaqué que je connaisse. C'est pas compliqué, Jeff. C'est pas compliqué de jouer avec Tige, là. Il était à quelque part.
Le corridor.
Tu fais juste une belle passe, tu y mets sa palette, puis ça va mettre ça dedans tout le temps.
C'était cœur, hein, j'adore ça. Manque ça au Canadien. C'est ça. Un bon vieux power forward.
Quand on le regarde, Tige, il a de l'air vieux, mais en dedans, il est jeune encore.
J'adore.
J'entendais pas ça ce matin.
Vous avez combien de concessions, là, le groupe Tige?
Quatre bannières.
250 employés à peu près?
Tout près, ouais.
Ça vire comme pas possible?
Oui, ouais. Des bons défis. T'sais, on a connu les années de COVID ont été quand même des années de défis, mais défis différents de ce qu'on vit en ce moment. Là, en 2024, on est revenu dans les années comme on utilisait ou comme on opérait avant, 2017-2018. Donc, on est revenu avec des normatifs là, au niveau des inventaires, au niveau des allocations de voitures, tout ça. Donc, il y a eu des réajustements, mais ça va quand même relativement bien. C'est une bonne année.
Moi, la famille T, je vous ai connu avec les courses d'auto. Ouais. Quand est-ce que vous êtes arrivé et vous vous êtes dit, tiens, on veut vendre des voitures?
Ça fait longtemps. Mon père a toujours travaillé dans l'automobile, puis il a eu sa concession Honda à l'époque en 1981.
Okay.
Dans le temps que les taux d'intérêt étaient à 25 puis que les trois grands Américains, malheureusement, ont crashé.
25
Mon père m'explique ça encore à l'occasion. On a déjà zotte là-dessus, puis je m'explique mal comment que ça faisait
pour fonctionner. Oui, puis il a réussi à s'en sortir.
Puis il est parti en affaires comme ça.
Wow!
Sauf que, tu sais, c'était une réalité qui était différente d'aujourd'hui. Ouais. Les concessions étaient beaucoup plus petites, beaucoup moins onéreuses à bâtir et à opérer. Aujourd'hui, les exigences sont folles. C'est débile, mais c'est un beau monde, l'automobile. C'est un beau monde.
Est-ce que toi, Benoît, tu voulais faire carrière là-dedans dès que tu étais jeune?
À partir du moment où je pouvais me déplacer et comprendre un peu, 10-12 ans, les fins de semaine, j'allais faire le ménage dans la concession de mon père, j'allais laver des chars l'été. J'ai toujours voulu, puis t'sais, j'ai fait des courses pendant quand même 25 ans professionnel. Fait que t'sais, j'ai été impliqué là-dedans. Moi, ma vie, c'est l'automobile. Fait que ça s'arrête là. Je sais pas faire autre chose. L'automobile, on est pas pire.
Il est capable de scorer des buts.
Ouais, c'est ça. Tu me l'as présenté comme le meilleur power forward de l'histoire, mais je sais pas faire autre chose que l'automobile.
C'est un power forward, puis en plus, c'est un sniper. Fait que là, il y a plusieurs armes à son épaule. Benoît, je voulais savoir, toi, quand tu as vu ça, là, que la Coalition Avenir Québec voulait mettre ça en place au Québec, comme d'autres pays l'ont fait, là, c'est-à-dire 2035 ou 2030 à certains endroits, c'est terminé pour ce qui est de la vente de véhicules à essence. Ça a été quoi ta première impression?
Bien, en fait, il y a beaucoup de réponses dans ça. T'sais, si on parle de l'industrie automobile en tant que telle, je veux dire que le gouvernement de la CAQ veut imposer quelque chose pour le peuple, pour les gens. J'ai de la misère à comprendre comment ils vont faire ça. T'sais, je veux dire, quand on parle à nos fabricants, quand on a des conventions, que ce soit aux États-Unis ou même au Canada, puis on explique nos réalités, maintenant, le Canada, souvent, on est un apogée des États-Unis. C'est les États-Unis qui contrôlent le marché nord-américain depuis quelques années. Ça n'a pas toujours été comme ça. Souvent, ça a été... Il y avait un président au Canada, il y avait un président aux États-Unis, puis chacun gérait sa cour. Maintenant, il y a encore un président pour les fabricants que je représente ou n'importe lesquels au Canada, mais le pouvoir de décision revient maintenant du côté des États-Unis, puis on est comme une nation supplémentaire. Fait que c'est sûr et certain que quand ils voient que, ou ils entendent des choses comme ben, le Québec impose une interdiction de vente de voitures à essence en 2035, l'effet, c'est comme virer de l'eau dans un lac. Là, il y a pas... c'est pas comme ça qu'on doit travailler, selon moi, mon avis personnel. Puis hier, je faisais un petit sondage sur Facebook. Et
j'allais voir les commentaires sur ton Facebook. Là, mais ça se demandait, ça vient de qui cette commande-là? Parce que les gens qui prennent ces décisions-là, c'est des gens qui sont élus de façon démocratique.
Oui.
Puis normalement, leurs décisions doivent représenter un peu ce que le peuple désire. Puis là, ben, juste sur ton Facebook, on s'entend que ce n'est pas une étude scientifique.
Non, vraiment pas.
Puis tu n'as pas orienté la réponse. Là,
vraiment
mais
pas.
Mais ce n'était que négatif. Les gens disaient, mais pourquoi ils en sont rendus là?
En fait, ce qu'il faut retenir dans ça, puis ce qu'il faudrait que le gouvernement retienne dans ça, puis c'est un peu ma vision à moi personnelle, je vais parler personnellement, il faut laisser le choix aux consommateurs, puis graduellement, je veux dire, on va aller vers une technologie verte. Moi, je suis pas contre les véhicules électriques, j'en vends, j'en conduis, j'ai rien contre ça. Est-ce que c'est la technologie à 100% dans l'avenir? Je peux pas me préciser, je peux pas me pointer là-dessus puis dire 100%.
L'essence synthétique, l'hydrogène.
Il y a beaucoup de choses. Il y a des faits, par contre, qu'il faut reconnaître, Yannick, ce matin, c'est que il y a eu tellement d'investissements dans la dernière année et demie des fabricants automobiles envers la technologie électrique, soi-disant électrique, soit au niveau des rebâtir des usines ou pour bâtir des batteries, refaire des plans pour bâtir des véhicules électriques parce que ce n'est pas les mêmes chaînes de montage, ce n'est pas la même méthode de fabrication. Donc, on n'ira pas en arrière, puis les gens, malheureusement, même si ça ne fait pas leur affaire, je ne pense pas que le modèle électrique va être là pour disparaître. Là. Il est là, il est impliqué. Il y a 30% des gens en ce moment au Québec qui achètent des véhicules électriques avec les subventions, soit dit en passant.
Qui vont terminer en 2027 et là qui commencent à diminuer déjà.
Ça, je pense que c'est une autre erreur qui a été faite. Puis je veux dire, oui, c'est vrai que les coûts de fabrication avec le temps vont diminuer puis les fabricants vont réussir à amener des produits un peu plus accessibles. Avec de l'autonomie, mais on n'est pas encore rendu là, puis là, on soutire cette subvention-là. Je trouve ça un peu triste.
C'est pas encore assez attrayant pour qu'il n'y ait pas de subvention, je me trompe-tu?
Non, on est encore dans l'apogée. T'sais, la journée où la majorité des gens qu'on parle sur la rue, demain matin, je vous dis, tu peux acheter une voiture électrique, 1200 km d'autonomie, tu charges en 10 minutes, je pense pas qu'il y a personne qui va dire non à ça.
En effet.
On n'est pas là. On va arriver là. Je suis sûr qu'on va arriver là. Tu sais, je parlais cette semaine avec un dirigeant de GM. Il m'a annoncé, il dit, Benoît, la nouvelle Bolt, parce que la Bolt a été discontinuée l'an passé, puis là, il la ramène l'an prochain. On a une nouvelle technologie de batterie. Elle va être recyclable à 98%. C'est impressionnant. La batterie de la voiture va être recyclable à 98%. On est super vert, on est super content. Les batteries ne polluent plus. Il m'a dit, par contre, de l'autre côté, il va y avoir un peu moins d'autonomie, mais on a réussi à diminuer nos coûts de fabrication de 40%. Donc, on va avoir une petite citadine avec un prix intéressant, j'ose croire, entre une braquette de 30-35 000, qui va donner peut-être une autonomie de 200-250 km, qui va faire pour peut-être certaines demandes de certains gens, puis ça va faire l'affaire. Ça.
Mais une certaine clientèle nichée quand
même.
C'est
ça. Fait qu'il faut juste pas embarquer dans la guerre électrique contre essence. C'est pas ça. C'est juste que je pense que le gouvernement se dupe en disant on interdit moteur à essence. T'sais, je veux dire, l'industrie automobile dans les 5 dernières années, moi j'en fais partie, je suis fier de travailler pour l'automobile. Ils ont fait beaucoup de choses pour améliorer le côté vert. Ils nous mettent beaucoup de pression sur nos bâtiments pour qu'on soit vert, qu'on réintègre les huiles, les batteries, les pneus, tout ce qui est toxique, tout ce qui n'est pas bon. On a des mandats sévères, puis on est suivi par le gouvernement, puis par les fabricants pour s'assurer d'être, soi-disant en passant, hors. Ça va quand même relativement bien de ce côté-là. Fait qu'il y a quand même une bonne gestion, mais de là à imposer à la population un choix, c'est jamais ben winner. Je pense qu'on devrait se rassurer puis regarder les orientations. Puis peut-être, comme Yannick, tu disais, peut-être que ça va être le synthétique, peut-être que ça va être d'autres choses. Ouais. On le sait pas. Mais...
Est-ce que je me trompe ou j'ai l'impression qu'il va y avoir plus une montée de l'hybride dans les prochaines années qu'une montée du véhicule électrique en tant que tel?
Moi, présentement, c'est quelqu'un, un ami qui m'appelle et me dit « Qu'est-ce que tu penses? Je fais tant de kilomètres, mes besoins, c'est ça. » Je pense que la meilleure technologie en ce moment, c'est hybride branchable. Bon, là, on tombe avec une voiture qui donne une autonomie d'environ 100, entre 80 et 120 km d'autonomie électrique. Puis après ça, c'est le moteur à combustion qui embarque. C'est parfait. On peut aller à Boston, on peut aller en Ontario, on peut aller à Vancouver, on peut aller partout. Puis on utilise quand même. Puis dans la majorité de notre temps, notre quotidien, quand est-ce que tu fais entre 80 et 120 km pour aller travailler à tous les jours? C'est pas 70 % de la population qui a ça. Donc, moi, je pense que ça, c'est une belle transition, mais c'est pas reconnu par le gouvernement en ce moment. C'est pas considéré comme vert. Fait qu'il n'y a pas de subvention, il n'y a à peu près pas rien d'excitant de ce côté-là. C'est une super belle technologie qui aurait pu nous emmener tranquillement, soit dit en passant, vers une technologie encore plus verte avec les batteries. On n'est pas là. Fait que là, on est 100 % batterie. Il y a eu des investissements. Moi, les quatre fabricants que je représente, ils ont tous fait des investissements massifs de plusieurs milliards de dollars au Canada puis aux États-Unis. Fait qu'on s'en va là. Mais on s'en va là, mais la demande n'est pas encore là. Tu sais, comme j'expliquais à des gens, en ce moment, le 30 % de ventes qu'on fait de véhicules électriques, les clients qui voulaient avoir des véhicules électriques, ils les ont achetés. Là, ce qu'il faut convaincre, c'est le reste de la population. On enlève les subventions. Comment qu'on va faire ça?
Ouais. Quand on est propriétaire de véhicules électriques neufs, y a-tu des coûts supplémentaires? Ça coûte-tu plus cher d'assurance assurer un véhicule électrique?
Ça, c'est un bon point parce que ce qu'il faut aussi pas oublier dans ça, c'est que les gens souvent disent « Ah, j'ai acheté un véhicule électrique, je ne ferai plus d'essence, je m'en sauver 3 000 $ de gaz par année, ça va me faire deux paiements. » OK, mais quand tu vas utiliser ton véhicule électrique, tu vas le charger à une borne niveau 3, mettons au Madrid en montant à Montréal. Ça coûte 40 à 50 piastres charger de niveau 3 un véhicule électrique et une full charge. Là. Excuse l'expression en anglais, là. C'est à peu près ça. Ouais. Si tu le charges chez vous, tu as 90-90% d'économie, mais tu as un plateau de 10-12 heures pour charger ta batterie. Fait que tu sais, il y a des réalités différentes. Puis le fait aussi que la batterie est dans le châssis, est dans le fond de la voiture, si on veut. Quand il y a un impact latéral, un impact de côté où est-ce que la batterie est touchée, la voiture est perte totale. Les assurances pour les véhicules électriques ne font que grimper
en raison de ça,
parce qu'une batterie ne se répare pas.
Ouais.
Les cellules se réparent. Les cellules se réparent s'ils sont défectueuses, s'ils sont endommagés par un accident, on la voit au rebut. Ça, c'est pas trop vert. Puis c'est très cher à assurer de plus en plus, puis on va l'avoir de plus en plus en avant de nous autres, de plus en plus de problèmes avec ça au niveau des assurances, malheureusement.
Est-ce que les politiciens écoutent ce que vous avez à dire une fois de temps en temps?
En fait, hier, je parlais avec le président de la Corporation des concessionnaires automobiles, Yann, puis j'expliquais ça, puis eux autres sont en discussion, puis il faut qu'ils soient en discussion à la Corporation des concessionnaires de Québec. Avec le gouvernement pour s'assurer qu'il y ait une transition puis qu'il y ait une écoute, puis sensibiliser le gouvernement qu'on est le Québec, dans le Canada, en
dans
Amérique
les États-Unis.
Le poids n'est pas là, puis il faut faire attention. Là, je vais mettre mon chapeau de concessionnaire ce matin. Si demain matin, on est le Québec puis la Colombie-Britannique qui vend des véhicules électriques puis on empêche les moteurs à combustion interne à partir de 2035, puis l'Ontario, l'Atlantique, eux autres, ils peuvent continuer à vendre des voitures à essence. Il arrive quoi?
Ouais.
On va arriver quoi? Là, le gars, il va traverser à Gatineau. Il va partir de Gatineau, il va aller à Ottawa, il va aller s'acheter un véhicule à essence. Il va l'emmener au Québec. Là, ça va être l'enfer. Ce que je comprends aussi, parce que je parlais avec Tim, de la CADA, qui représente l'Association des concessionnaires pan-canadiens, il dit, Benoît, la loi dit plus loin que ça, en plus, pour le gouvernement. Moi, je ne l'avais pas saisi de même. Il dit, la loi va plus loin que ça pour le gouvernement, ce qu'ils ont annoncé. C'est interdiction totale de véhicules à essence, de vente à véhicules à essence en 2035. Donc, toi, demain matin, tu as un 2032 que tu veux me redonner en échange à essence. Je ne peux plus le vendre. Comment ça marche? Il y a quelqu'un qui a pensé à ça.
Oui, puis là, on s'entend que, puis là, tu vas me corriger si je me trompe, mais l'industrie automobile est basée là-dessus. Ça fait 3 ans que j'ai mon char, je veux le changer, je viens te revoir. Parfait, Jeff, gars, je te donne le nouveau modèle, puis bingo. Puis toi, tu revends celui de 2032 à quelqu'un d'autre. Pis,
exact.
La roue tourne, là.
Puis, tu sais, les véhicules d'aujourd'hui, à l'époque, 8-10 ans, véhicules, t'es quand même pas mal passé dû. Aujourd'hui, les véhicules 12, 15, 16, 20 ans,
ben oui,
durables. Fait que tu sais, c'est pas rare des véhicules qui sont capables de faire 300-400 000 km. À l'époque, c'était juste les Japonais. Maintenant, l'industrie au complet s'est réajustée, puis ça va quand même relativement bien. Il y a beaucoup de choses à ajuster. T'sais, le gouvernement s'est gardé une réserve en disant « En 2030, on va regarder comment ça se passe. » C'est demain, 2030, ouais, les gars. Ouais. C'est demain, là. Puis il y a tellement de facteurs majeurs. Tu sais, je veux dire, si les fabricants, qui sont les décisions qui viennent des États-Unis, disent « Ben, écoute, nous autres, on s'en va comme ça. » Puis vous n'aurez juste pas au Québec. Ça s'arrête là.
Tu savais que j'ai des dons de médiumnité, Ben?
T'es fort!
Oui, je peux te prédire 2034 pour toi et ton entreprise.
Oui.
Ouais. 2034, là, vous allez avoir un record. Ah, ben là! Un record de vente de véhicules à essence! Ah, ça pas... ah, ça va être l'enfer!
On va tout vendre ce qu'on va pouvoir. Ah, non, c'est un ça. Peu, on va revivre les années COVID où ce qu'il y avait, avec la fameuse puce, les problèmes des micro-puces ou des microchips, qu'on n'avait plus d'inventaire puis tout ce qui rentrait débarquait était vendu. On va peut-être arriver à une situation comme ça. Je la souhaite pas. Tu sais, je pense que. Il faut que le gouvernement refasse ses calculs, fasse ses études, puis qu'il travaille en collaboration.
T'sais, Benoît, je me demande tout le temps, est-ce que ces gens-là qui nous dirigent consultent les bonnes personnes? Des gens qui sont en théâtre de guerre. Toi, tu es dans l'industrie automobile, faites partie d'une corporation, il y a des représentants et tout ça. Là, tu me dis que parfois, il y a des discussions. Mais juste en jasant avec un maître électricien, Benoît, là, il m'a prouvé que ça allait être impossible que d'ici 2035,
c'est drôle que
cette
tu me parles
loi-là
de ça.
Passe.
Yann, c'est drôle que tu me parles de ça. Tu m'allumes sur un point. J'étais à l'aéroport cet hiver, puis je vais taire la personne, un haut placé. Il me disait, Benoît, il dit, tu savais qu'en ce moment, puis on parlait d'électrique, puis tout ça. Il dit, tu savais qu'en ce moment, on refuse des projets, mettons, Alouette, là, la grosse usine d'aluminium. Il dit, on refuse certains projets parce qu'on n'est pas capable de fournir l'électricité suffisante pour développer d'autres projets. Puis là, ils veulent imposer ce côté-là. Non, fait que j'ai comme l'impression qu'à l'intérieur, puis c'est facile de basher, puis je veux pas faire du bashing, je respecte tout le monde en vie. J'ai comme l'impression qu'il y a, à l'intérieur des gouvernements, c'est peu importe le gouvernement, on dirait que pas tout le monde qui se parle. Chacun fait son corridor, travaille pas en équipe, puis à un moment donné, au bout du compte, il arrive, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Comment on va faire ça?
Puis moi, j'ai une question. L'industrie. T'sais, parce que là, tantôt, tu nous l'imaginais bien, là. Amérique du Nord, les États-Unis, tu le quittes. L'industrie va-t-elle être prête en 2035 à fournir des véhicules uniquement électriques au Québec?
Moi, je pense que si l'industrie le veut, elle va le pouvoir.
Ouais, elle va le pouvoir.
Mais parce que là, en ce moment, il y a des méga investissements, il y a des méga usines qui se bâtissent puis qui vont être prêtes dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais la seule chose... C'est pas ça qui va dicter le champ, c'est le consommateur.
Ouais.
Imposer quelque chose à quelqu'un, moi personnellement, tu m'imposes quelque chose, c'est jamais le fun. C'est jamais le fun pour personne. Fait que comment est-ce que les gens vont réagir? Puis il faut pas que ça soit à 70 000. Faut que ça soit à 30, 35 000, que le commun des mortels soit capable de le charger. Puis mettons qu'il n'y a pas de borne de recharge chez eux. Ben, qu'il soit capable de se brancher 10 minutes, on est parti, puis on est opérationnel.
Oui, parce que la famille moyenne existe encore.
Ce qu'il faut comprendre aussi dans ça, ce matin, si on tombe un peu plus dans le technique, une voiture électrique, chaque fabricant, quand on veut charger, mettons une niveau 3 qui est la plus puissante en ce moment dans le marché, on peut emmagasiner tant, la voiture peut emmagasiner tant d'énergie dans un temps donné pour remplir la batterie. Mais c'est pas toutes les batteries qui peuvent emmagasiner à la même vitesse. Donc, on va ramener ça à un goulot. J'ai un petit goulot comme ça. Même si j'ai la plus grosse fontaine au monde pour remplir mon goulot, il n'en rentre pas plus dans le goulot. Ça, les gens sont pas encore au courant de celle-là. Puis, en plus de ça, souvent en hiver, les batteries sont pas prêtes à avoir la recharge ou le jus de l'électricité. Il faut qu'il se réchauffe. Ça prend 3-4 minutes. Avant de réchauffer la batterie, puis après ça, le jus commence à passer. Fait que les délais là, de 15-20 minutes, là, 20-25, là, c'est les délais en ce moment, puis il ne faut pas rêver. La technologie est comme ça en ce moment. Fait qu'il n'y aura pas personne qui va faire le plein comme on fait en 7 minutes en ce moment, puis repartir. Impossible. On n'est pas là dans la technologie, puis surtout, on n'a pas de climat en ce moment pour avoir des batteries, puis recharger en 5 minutes. Ça va s'améliorer grandement, mais la réception est différente. Les bornes ne sont pas prêtes. Puis le système... La structure du système, tu sais, le gouvernement devrait investir davantage là-dedans parce que l'honneur de la guerre, c'est avoir des bornes de recharge.
Oui, puis que l'électricité, là, ça fonctionne, alors qu'on connaît énormément de pannes à la grandeur du Québec quand il y a des intempéries.
Ah non, ça, c'est...
Là, on sait qu'il y a un gros retard sur les lagages, puis je pense qu'Hydro-Québec a dû le mentionner, qu'effectivement, dans les dernières années, il y avait coupé sur les lagages, puis là, il y avait du rattrapage à faire. Mais il n'en demeure pas moins que des pannes d'électricité, on n'est pas à l'abri de ça. Puis juste revenir sur la discussion qu'on avait tantôt, les trois, actuellement, la technologie hybride, le véhicule hybride, oui. Je trouve que c'est le meilleur moyen de...
Accessible.
Oui, oui, de se mouvoir.
C'est parce que quelqu'un aujourd'hui qui veut s'acheter une hybride versus un moteur à combustion simple,
ouais.
2000$, il est capable d'avoir une hybride modèle pour modèle. Nice. Quand même, ça commence à être vraiment intéressant.
Oui, là, c'est intéressant.
Puis là, tu fais du 3,5 litres au 100. 4 litres au 100.
Et puis là, t'as l'économie réelle d'essence.
T'as le meilleur des deux mondes, t'as de l'autonomie, puis t'es pas bloqué avec rien.
Ouais, puis tantôt, j'ai retenu, t'as dit 70 % des gens sont capables, normalement, dans leur journée normale, de rouler seulement sur l'électrique avec l'hybride. Fait que c'est d'autant plus intéressant.
Ben oui, exact.
C'est juste les fins de semaine, quand t'as plusieurs déplacements,
ben oui.
Où il faut que tu quittes
ou quand
un peu
tu te déplaces, on se déplace tous. On aimerait tous monter, faire Montréal aller-retour. Avec une charge, un véhicule électrique, c'est pas encore possible. On le fait avec un véhicule à essence, ça va le devenir. Il faut donner le temps, mais d'ici là, on a besoin de l'encore d'aide du gouvernement pour les subventions, puis de l'écoute avec la Corporation des concessionnaires. Puis comme je disais à Yann hier, puis Yann, il me disait la même chose, faut pas séparer le Québec du Canada, là. Faut s'unir ensemble, puis prendre une décision pour le pays, ouais. Parce que le Québec dans le Canada, aux États-Unis, là, le pouvoir, là, tu sais, je veux dire, je comprends que la Californie a des mandats spécifiques, puis on veut se comparer le Québec à la Californie. On n'a pas la même température.